Le titre de mon message ce matin, c'est « Deux pièges à éviter ». Deux pièges à éviter et je pourrais l'appeler également « Deux attitudes qui gâchent ta vie ». Si je posais la question à chacun d'entre vous et à main levée, qui a envie d'être frustré toute sa vie ici ? C'est ce que je pensais. Pas sûr qu'il y ait des mains qui se lèvent. Et si t'as levé ta main, viens me voir à la fin de la réunion, on va discuter. Mais réellement, il y a personne qui veut être frustré toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument écouter ce message-là. Ce message-là est pour tout le monde. Et justement, j'aimerais regarder avec vous une parabole de Jésus. Vous savez, Jésus, c'est le plus grand enseignant de l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, à chaque fois qu'il faisait un discours, c'était littéralement des foules qui venaient l'écouter parce que ses enseignements étaient riches, ses enseignements étaient profonds. Et en bon enseignant, il avait différents types d'enseignements. Il avait des enseignements magistrales, normales, mais il enseignait aussi par des histoires, par des paraboles. Parce que Jésus, avant même que Hollywood, Netflix existent, savait que ce qui captive l'attention des gens, c'est des histoires. Tout le monde aime des histoires, c'est pour ça qu'on aime aller au cinéma, les scénarios où on ne sait pas comment ça va se finir. Moi, je suis un fan et je sais que là, l'automne arrive, je vais être dans mon salon avec les couvertes, le pop-corn, puis regarder des bons films, on aime ça. Puis Jésus savait que raconter des histoires, ça captivait l'attention. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il raconte une parabole. Mais avant de raconter cette parabole, il est avec ses disciples. Il est avec ses disciples bien souvent, puis il leur enseigne des principes sur le royaume de Dieu. L'importance de faire partie du royaume de Dieu. Et les conditions qu'il faut pour avoir accès à ce royaume-là. Et les disciples, justement, se regardent à droite, à gauche, puis bombent le torse, puis ils se disent hey, « Nous, on a quitté beaucoup de choses pour Jésus. On a quitté des carrières florissantes pour certains. On a quitté des familles pour suivre Jésus de ville en ville. Jésus, puis tu sais, quand tu poses une question et tu sais que la réponse, elle va être favorable. Jésus, est-ce qu'il va y avoir des places réservées pour nous ?» Ils arrivent avec fierté. Puis là, Jésus, il leur dit « Oui, en effet, il va y avoir des places réservées pour vous. Mais... » Et là, il rajoute un « mais » et il annonce une phrase qui est devenue culte, qui a même dépassé les murs de l'Église, les murs de la Bible, tellement que certains ne savent même pas qu'elle a été prononcée par Jésus, qu'elle vient de la parole de Dieu. Il rajoute un « mais », il dit ceci, « Mais plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Maintenant, moi ayant grandi dans une famille chrétienne et une famille de sportifs, cette phrase-là, je l'ai entendue à toutes les sauces. Je l'ai entendu dans tous les contextes. Moi, je jouais au soccer, puis mon père, c'était un homme de Dieu. Puis des fois, ça m'arrivait de perdre des tournois, de perdre des matchs. Puis il arrivait, Bible en main, homme de Dieu. Et il croyait me remonter le moral en me disant « Fiston, t'inquiète pas, les derniers seront les premiers. » Je regardais comme ça, je dis « Non, papa, ça m'encourage pas du tout. » Non seulement ça m'encourage pas, mais laissez-moi vous dire que Jésus, quand il dit cette phrase-là, il parle pas du tout de sport. En fait, pour expliquer la signification de cette phrase-là, il va raconter une parabole. Une parabole que je vous lis maintenant. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Donc à l'époque, les personnes qui n'avaient pas de travail, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient sur une place dans l'espoir de se faire embaucher par un employeur. Et là, ils se font embaucher par quelqu'un et il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Donc l'employeur arrive, il les dit « Ok, pour travailler avec moi, le salaire c'est une pièce ». Ils sont très contents, ils y vont et ils commencent à travailler. Sauf que vers 9h du matin, il sort de nouveau. Et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi et chaque fois il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tout premier des engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'une heure. » Et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître leur répond à l'un d'eux. « Mon ami, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier autant arrivé qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Cette parabole nous parle de comment l'évangile fonctionne. Que tu donnes ta vie à Jésus à 18 ans ou à 68 ans, de la même manière tu vas être sauvé. De la même manière tu vas avoir accès à l'éternité. Même si peut-être tu as passé toute ta vie loin de Dieu et que tu donnes ta vie à Jésus dans les dernières heures de ta vie, ça c'est la grâce incroyable, c'est le cadeau incroyable de Dieu qui te donne accès à l'éternité. Ça c'est le message de l'évangile. Mais ce que cette parabole nous enseigne aussi, c'est que certains de ceux qui ont donné leur vie dans les derniers jours de leur vie, seront considérés comme les premiers, et que certains de ceux qui ont donné leur vie à Jésus dans les premières années, qui ont servi Dieu durant toutes leurs années, toute leur vie, seront considérés comme les derniers à cause de leur attitude. Et c'est sur ces attitudes-là que j'aimerais m'attarder aujourd'hui, parce qu'elles sont responsables de la grande majorité de nos frustrations dans la vie. Et la première attitude que j'aimerais voir avec vous, c'est le manque de reconnaissance. Lorsqu'on regarde à la parabole, les ouvriers qui se font embaucher au début, ils sont bien contents d'avoir une pièce d'argent, mais à la fin, ils finissent frustrés. Ils finissent frustrés, pourtant, tout ce qu'ils reçoivent, c'est une faveur. Tout ce qu'ils reçoivent dans cette histoire-là, c'est de la grâce. Il n'y a rien qui obligeait l'employeur à les embaucher. Il n'y a rien qui les obligeait. Et finalement, ils finissent leur journée de travail avec un salaire. Ils ont pu accomplir quelque chose. Et malgré ça, ils sont frustrés. Et lorsqu'on regarde et on fait le parallèle entre cette parabole-là et notre vie à nous, chrétiens, on réalise que parfois, ça peut être nous, les ouvriers ingrats dans cette histoire. Parce que dans cette histoire-là, l'appel des ouvriers à venir travailler représente l'appel que Dieu nous lance, à venir dans sa famille, à venir, à devenir enfant de Dieu. Lui qui nous a aimés malgré nos erreurs, malgré nos fautes, qui s'est offert à la croix pour nous, il nous appelle à faire partie de sa famille. Le travail des employés ici, dans cette histoire, représente tout ce qu'on accomplit pour Dieu, notre service, notre ministère, notre générosité en temps, en argent, les pas d'obéissance, de sacrifice qu'on fait pour Dieu. Et enfin, le salaire représente ce qu'on va recevoir au ciel. Parce que, flash news pour ceux qui ont oublié, un jour nous allons être réunis avec Dieu dans un monde sans souffrance, sans maladie, sans injustice, un monde rempli de joie, d'amour, de fête, de rire, un monde où on verra Dieu face à face. Ça mérite un amen, je pense. On peut applaudir ce Dieu qui nous donne la vie éternelle. C'est la vie éternelle qu'il nous donne. Sauf que la colère des ouvriers envers leur maître représente toutes les fois où on dit à Dieu « c'est pas assez ». Où on a l'impression que Dieu est injuste avec nous. L'impression qu'il ne nous donne pas assez selon nos mérites. Les fois où on se frustre que parfois, est-ce que ça pourrait être nous ça parfois, qu'on pense que notre obéissance peut placer Dieu dans une position où il se doit de nous bénir. De dire, Seigneur, tu vois là, j'ai prié tous les jours, je jeûne, je suis consacré à Dieu, je passe mes soirées. Là, il y a une réunion de prière à Drummondville, je vais y aller pendant que d'autres sont sur Netflix. Moi, je marche dans l'obéissance, dans les sacrifices, je suis généreux, tout ça, je jeûne, j'évangélise malgré la persécution. J'ai un entretien d'embauche dans une semaine là. C'est sûr que tu vas me donner une réponse favorable. T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi. Et que dès que les choses ne se passent pas comme prévu, on a l'impression que Dieu est injuste avec nous. Parce que nous, on obéit, parce que nous, on sert. Un peu comme cet homme qui s'appelle Asaph. Asaph, c'est un homme de Dieu, un conducteur de louanges qui a vécu il y a des milliers d'années. Et lui, il composait des chants. Si Asaph vivait au 21e siècle, ses chants feraient des millions de vues sur YouTube. Il aurait un ministère international. Vraiment un homme de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, Asaph passe par un moment difficile. Asaph passe par une série d'épreuves et de difficultés. Et il fait part à Dieu de sa peine. Il exprime à Dieu sa peine et sa frustration avec une authenticité, je vous préviens, qui est assez renversante. Regardez ce qu'il dit à Dieu. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et leur force est en son entier. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sortent-ils d'arrogance comme on porte un collier et la violence est leur parure. Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Le psalmiste exprime à Dieu des pensées qui bien souvent peuvent nous passer par la tête, mais qu'on n'ose pas verbaliser. Il dit, je vois des gens, ils sont méchants, ils sont orgueilleux, ils sont hautains, ils ne croient même pas en toi, ils n'en ont rien à faire de toi, ils ne prient pas, et leur vie, elle va bien. Leur vie, j'ai l'impression que c'est promotion sur promotion. Je regarde leur feed Instagram, on a l'impression que c'est la famille parfaite. Ils vont aux Bahamas. Les enfants, on dirait qu'ils sont parfaits. Ils se chicanent jamais. Tout va bien pour eux. Ils sont pas malades. Tout va bien. Et moi, qui marche dans l'obéissance, moi qui marche dans la pureté, qui marche à contre-courant dans cette société qui est anti-Dieu, moi, je suis frappé par la maladie. Moi, je suis frappé par la solitude, par la souffrance, par l'épreuve. Est-ce que c'est en vain? Est-ce que c'est en vain que je fais tout ça pour toi? Est-ce que c'est en vain que je marche dans l'obéissance, que je te sers, que je donne de mon temps, de mon argent? Est-ce que c'est en vain que je fais tout ça? L'impression que Dieu est injuste avec nous. L'impression que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Oubliant que face à Dieu, nous ne méritons rien. Et que malgré qu'on mérite rien, il nous a quand même tout donné. Lui, l'offensé, il a pris la place de l'offenseur. Que malgré nos fautes, malgré nos erreurs, il est venu se donner à la croix pour prendre sur lui la culpabilité de nos fautes. Et comme si ça suffisait pas, il nous a adoptés dans sa famille. Comme si ça suffisait pas, il nous donne son Saint-Esprit qui nous donne la joie, la paix, l'amour, la foi, l'espérance. Comme si ça suffisait pas, il nous donne des dons, des talents et un rôle clé à jouer dans l'avancement de son royaume ici sur terre. Je ne sais pas pour vous, mais je veux jamais voir ma relation avec Dieu et le fait de le servir comme un moyen d'obtenir quelque chose de plus de sa part. Parce que de toute façon, il n'existe rien de plus grand que ça. Rien de plus grand que sa présence. Ni une carrière, ni un conjoint, ni une conjointe, ni de l'argent, ni même l'absence d'épreuves. Il n'y a rien qui remplace la paix et la présence de Dieu dans nos vies. Est-ce que je peux entendre un amen, nouvelle vie ce matin? Il n'y a rien qui remplace ça. Absolument rien. C'est un privilège incroyable qu'on a de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Et pour développer cette reconnaissance-là, on a besoin d'humilité. Et une de mes définitions les préférées de l'humilité vient de C.S. Lewis qui dit ceci. L'humilité, ce n'est pas de penser mal de soi, mais de penser moins à soi. On connaît tous, hein, on connaît tous quelqu'un. L'humilité, c'est pas juste se dénigrer. On connaît tous quelqu'un, par exemple, qui cuisine super bien. Puis tu vas lui faire un compliment. Hey, franchement, c'est la meilleure tarte que j'ai mangée de ma vie. Tu cuisines super bien. Puis la personne, elle va dire, non, c'est pas vrai. Comment tu sais que tu cuisines bien? Ça, c'est juste de l'orgueil déguisé. L'humilité, c'est pas juste se dénigrer. L'humilité, c'est penser moins à soi. De se concentrer beaucoup plus sur ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir dans nos vies que ce que nous accomplissons sur lui, pour lui. Et lorsque tu réalises ça, tu réalises que y a aucun moyen, tu peux pas t'appuyer sur tes mérites pour demander la faveur de Dieu dans ta vie. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et quand t'es un enfant, t'entends les gens prier. Puis j'ai réalisé que souvent les gens disaient à la fin de leur prière, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Et moi, en grandissant, je pensais que c'était une formule magique qui nous donne plus de chances d'avoir des réponses favorables à nos prières. Mais c'est beaucoup plus qu'une formule magique. Lorsqu'on dit « Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus », ce qu'on dit littéralement, c'est « Seigneur, si je te demande d'intervenir favorablement dans ma vie, c'est pas parce que j'ai prié tous les jours cette semaine, c'est pas parce que j'ai lu ma Bible tous les jours cette semaine, c'est pas parce que j'ai donné à Nouvelle Vie, de Romaine Vie, non. Si je te demande d'intervenir dans ma vie, c'est parce que Jésus-Christ a accompli tout ce que moi j'étais incapable d'accomplir. Parce que lui, il a mérité tout à ma place. Et je ne viens pas en mon nom, non. Je ne viens pas en mon nom, je viens en son nom à lui qui est saint et qui est parfait. Combien sont reconnaissants que Jésus a tout accompli à la croix pour nous? Il a tout accompli pour nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule journée où on peut s'approcher de Dieu comme s'il nous devait quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. J'aime beaucoup cette citation de Jerry Bridge qui dit ceci. Tes meilleurs jours ne sont jamais assez bons pour que tu n'aies plus besoin de la grâce de Dieu. Et tes pires jours ne sont jamais trop mauvais pour que tu sois hors de portée de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, c'est que peut-être tu es là, si tu es là et tu as l'impression que tu t'es éloigné de Dieu, peut-être même tu es rentré dans ce lieu avec de la honte, de la culpabilité pendant la louange. T'hésitais, t'étais timide dans la louange parce que tu dis, moi, je veux pas être hypocrite. Je veux pas être hypocrite. J'ai tellement fait de mal. Puis là, t'es pris avec de la honte, de la culpabilité. J'ai trop péché, j'ai trop fait d'erreurs et je veux arrêter de chanter parce que lui, il connaît mon passé. J'aimerais te dire, mon ami, que tu n'es pas hors de portée de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas aller trop loin pour que Dieu ne soit pas là et t'accueille les bras grands ouverts parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Est-ce qu'on pourrait encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre? Tu n'es pas hors de portée de la grâce de Dieu. On ne peut jamais aller trop loin pour que Dieu vienne nous chercher. Aucune ombre n'est trop sombre, on l'a chanté ce matin. Mais la deuxième partie de la phrase nous dit par contre qu'on ne peut jamais vivre trop dans la sainteté, trop dans la pureté, trop dans l'obéissance pour aller devant Dieu et dire « Seigneur, tu me dois quelque chose ». Et c'est extrêmement important à comprendre ça. Extrêmement important à comprendre parce que notre joie en dépend. parce qu'on ne peut pas être reconnaissant pour quelque chose qu'on croit mériter. On ne peut pas être reconnaissant pour quelque chose qu'on croit mériter. Puis vous savez, notre joie est proportionnelle à notre reconnaissance. Quelqu'un a dit, ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, ce sont les gens reconnaissants qui sont heureux. Les personnes qui sont heureuses, là, souvent, il y a ce mythe de dire, ouais, lui, il est heureux parce que tout va bien dans sa vie. Non, non, non. Il n'y a personne qui vit aucune épreuve, aucune difficulté. Les personnes qui sont heureux, c'est parce qu'ils ont choisi de regarder aux bontés de Dieu au lieu de regarder à ce qu'eux, ils n'ont pas. Ça, c'est un choix de tous les jours. Notre joie est proportionnelle à notre gratitude envers ce qu'il nous donne. Puis vous remarquerez d'ailleurs que bien souvent, lorsqu'on est frustré dans la vie contre Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas quelque chose qu'on croyait mériter. Ça me fait penser à une histoire qu'un de nos pasteurs à l'école biblique aimait nous raconter. C'est qu'à un moment donné, il prêchait la parole, puis à la fin de la prédication, il y a une dame qui vient vers lui et qui s'avance en colère. Je vais vous faire une petite confidence. Nous, en tant que prédicateurs, lorsqu'on vient de finir un message et qu'il y a une dame qui vient en colère vers nous, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe, on est comme ça, puis on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai dit dans mon message qui n'a pas été, je vais me faire ramasser. Puis la femme, elle arrive, elle dit, pasteur, je suis en colère. Il avait remarqué. Je suis en colère parce que Dieu, il ne fait jamais rien pour moi. Je vois, il répond toujours aux prières des uns et des autres. Moi, Dieu, il fait, non seulement il ne fait jamais rien pour moi, et il n'a jamais rien fait pour moi. Il faut savoir que ce pasteur-là, il a un caractère bien trempé. C'est quelqu'un d'assez direct, puis il l'a regardé avec des grands yeux, il a dit, quoi ? Dieu ne fait jamais rien pour toi, il est venu mourir à la croix pour toi malgré que tu méritais rien, il te donne son Saint-Esprit, il te donne un rôle à jouer dans l'avancement de son royaume, même s'il ne répondait plus à aucune de tes prières, tu aurais encore un milliard de raisons de l'élever, de lui dire merci et de l'adorer. Mais la réalité c'est que Dieu ne s'arrête pas là. Combien savent que Dieu répond encore aux prières ? Dieu bénit encore aujourd'hui, ses bontés se renouvellent à chaque matin. On a juste le fait d'avoir 3 repas par jour. Des fois, on prend les bénédictions de Dieu par acquis. Pour acquis, 3 repas par jour. On peut marcher, utiliser notre intelligence, se réunir librement pour louer Jésus, alors que des chrétiens ne peuvent même pas, ils sont dans des pays persécutés. Bien souvent, on peut tellement être absorbé par nous-mêmes qu'on prend pour acquis les bénédictions de Dieu. Moi, le jour où j'ai réalisé réellement que j'étais ingrat, c'était à l'adolescence. Et là, vous allez me dire, comme tous les adolescents, et vous avez raison. Je travaille avec des ados, mais je les aime de tout mon cœur. Mais j'étais à l'adolescence, puis vous savez que moi, je viens d'une famille nombreuse, ok ? On est 6 enfants sur un espace de 8 ans. Courage, ma mère très très courageuse. Bravo à ma mère. Et puis ma mère, elle, lorsqu'elle faisait des courses, elle voulait faire des courses pour le plus longtemps possible. Et faire des courses pour 8 personnes affamées, ça se voit pas, mais j'aime bien manger, ok ? Faire des courses pour 8 personnes, ça prend du temps. Et ma mère, vous savez, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça un peu, ma mère, elle aime magasiner, elle aime faire les magasins, elle aime bien acheter, elle a ses petites habitudes, tu vois, elle va acheter les légumes dans un magasin, mais sa viande dans un autre. Ce qui fait que lorsqu'on allait faire des courses pour 8 personnes et qu'on se travaillait de magasin en magasin, ça durait des heures. Et des fois, elle disait, moi, il faut que je vais avoir besoin d'un de vous. Puis à chaque fois qu'elle disait, ok, il faut que quelqu'un vienne m'accompagner pour faire les courses, à l'intérieur de moi, c'était la terreur. C'était la terreur de me dire, ouf, j'espère que ça va pas être moi, j'espère que ça va pas être moi. Puis je me souviens à un moment donné, ça a été mon tour. Je suis allé, puis on a fait, pendant des heures, on fait les courses, tout ça. Puis une fois qu'on fait les courses, combien savent que c'est pas fini encore? Tu fais les courses et t'arrives chez toi, et là, c'est pas fini, le plus dur commence. Parce que là, c'est le moment où il faut ranger les courses. Dans le garde-manger, dans le placard, dans le frigo. Et combien savent que lorsqu'on a fait les grandes courses, il faut jouer à Tetris. De dire, ouais, il faut mettre ça, ça. Et puis moi, je m'en souviens, j'étais agacé. Ça faisait déjà toute mon après-midi, je l'avais passé avec ma mère à faire des courses, quelque chose que j'aimais pas. En tant qu'adolescent, je voulais juste aller jouer à la PlayStation. Ok. Puis aide-moi à passer à autre chose. Puis là, j'étais en train de mettre les choses dans le garde-manger, dans le frigo, tout ça. Puis avec la frustration, ça rentrait pas. Puis là, j'ai dit une phrase. Puis vous savez le genre de phrase, lorsque tu l'as dit, tu te rends compte de l'absurdité de ce que tu viens de dire et tu essaies de la rattraper, mais c'est trop tard. J'arrive, je dis, il n'y a pas de place dans le frigo, là. Je dis, maman, c'est n'importe quoi, le frigo, il est trop plein. J'ai dit, le frigo, il est trop plein. Et là, quand je l'ai dit, j'ai réalisé, mais à quel moment je suis arrivé à être autant ingrat pour me plaindre parce que le frigo, il est trop plein, alors qu'il y en a qui rêvent juste d'avoir 1 repas par jour, 2 repas par jour. Il y a des millions de personnes qui meurent de faim. Moi, je me plains parce que le frigo, il est trop plein. Et là, je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de me juger à juste titre. Mais la réalité, c'est qu'on est tous un peu pareil. De dire, Mon mari, en ce moment, il me tape sur les nerfs. Ma femme, elle me tape sur les nerfs. Souviens-toi quand tu priais pour un mari. Souviens-toi quand tu priais pour une femme. Mes enfants, en ce moment, ils me laissent pas dormir. Ils font n'importe quoi. Ils font se chicaner. J'ai envie de les étrangler. Souviens-toi quand tu priais pour avoir des enfants. Ma job, en ce moment, j'en peux plus. T'as une job, t'as un salaire. Il y en a qui ont rien. Ma voiture, elle fait des bruits bizarres. T'as une voiture. Mon cell, mon ordinateur, il fait que de bugger. Vous voyez où je veux en venir ? Des bénédictions de Dieu. Des fois, on est tellement béni par Dieu qu'on se plaint des bénédictions que Dieu nous a données. Dieu nous appelle à dire, soyons reconnaissants, soyons reconnaissants. Et bien souvent, j'ai remarqué que notre manque de reconnaissance est lié à la comparaison, est alimenté par la comparaison. Puis si on lit bien le texte, dans notre texte, les ouvriers sont bien contents d'être engagés pour une pièce d'argent au début. C'est la fête, ok, let's go, on va pouvoir manger ce soir. On est engagés pour une pièce d'argent. Ils sont bien contents jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que ceux qui ont travaillé moins qu'eux, eux aussi, ils ont une pièce d'argent. Et là, d'un coup, la pièce, elle ne suffit plus. D'un coup, c'est plus suffisant. Et j'aimerais vous donner un conseil très, très simple qui est garanti, sûr et certain. Si tu as envie d'être frustré dans la vie, compare-toi. Tu vas être frustré dans la vie, compare-toi. Compare ton conjoint, ta conjointe, ta maison, ton salaire, ton apparence physique, le nombre de followers que tu as sur les réseaux sociaux. Tu vas être frustré, compare-toi. La comparaison est le générateur de frustration par excellence. Et celui qui se compare, malheureusement, est incapable même de se réjouir du bonheur des autres. Pourtant, Romains 12, 15 nous dit ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mais est-ce que ça ne pourrait pas nous arriver parfois, nous, de faire l'inverse ? De pleurer lorsque les autres se réjouissent parce qu'on est jaloux et de se réjouir lorsque les autres pleurent parce que finalement, ma vie, elle est pas si mauvaise que ça. De dire, on se compare les uns les autres, puis des fois, on n'arrive même plus à se réjouir pour le bonheur des autres. Voilà, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était cet été. Comme j'ai dit, moi, je viens d'une famille nombreuse et un de mes frères est un joueur de professionnel de soccer en Europe. Ce qui fait que ses vacances sont plus longues que moi l'été. Il a un mois et demi de vacances. Et étant donné que lui, c'est un joueur professionnel de soccer et que moi, je suis un pasteur, son salaire est juste un peu plus élevé que le mien. Juste un peu plus. Pas de beaucoup, hein, mais c'est quand même assez significatif. Ce qui fait que ses vacances et les miennes, c'est pas la même chose. Puis lui, l'été dernier, il est parti à Dubaï. Parti à Dubaï, vivre la belle vie, tout ça pendant une semaine, deux semaines. Puis tu sais, quand tu vas à Dubaï, il faut que tu le mettes sur les réseaux sociaux. Sinon, ton voyage, il n'est pas valide, on dirait. Il faut que tu le mettes sur les réseaux sociaux, sinon, ok, c'est la preuve, je suis allé à Dubaï, ok. Puis je le voyais à Dubaï, vivre la belle vie, sur jet ski, sur des bateaux, tout ça. Puis j'aimerais vous dire que ma première réaction, ça a été de dire, oh, je suis tellement content pour lui. Mon frère, il a tellement travaillé fort, c'est le sang de la veine, je le connais. Oh, il mérite ses vacances. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ma première pensée, c'était de dire, en ce moment, lui, il est à Dubaï, moi, je suis à Longueuil. Pas la même game. Et c'est là où Dieu nous appelle réellement à dire, est-ce qu'on est capable de se réjouir du bonheur des autres ? Alors qu'on continue dans les évangiles, on retrouve Pierre, l'apôtre Pierre qui a posé la question à Jésus, qui l'a poussé à raconter cette parabole-là. On le retrouve et Jésus, juste après la résurrection de Jésus, et Jésus lui fait une grande annonce. Jésus lui fait une grande annonce et lui dit ceci, « Pierre, tu es un fidèle serviteur, mais je t'annonce que tu vas mourir jeune, sous la persécution, alors tu vas me suivre. » Puis la grosse nouvelle, c'est pas le genre de nouvelle qu'on aime recevoir. Et là, Pierre reçoit cette nouvelle-là. Puis là, il voit Jean passer. Puis son premier réflexe, c'est de dire, « Et lui, il va lui arriver quoi, lui ?» C'est comme quand tu viens de couler un examen, tu veux voir si t'es pas tout seul. T'sais. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Et là, Jésus, rempli de compassion, d'amour, donne une réponse à ce que seul Jésus peut donner, rempli de compassion. Il lui dit ceci, « Cela te regarde-t-il ? Toi, suis-moi. » Je suis sûr que Pierre s'attendait à un peu plus de compassion de la part de Jésus. Puis je pense même pas que sa question était mal intentionnée. Mais Jésus, par cette réponse-là, lui fait savoir de dire, est-ce que le fait de savoir comment Jean va vivre, est-ce qu'il va mourir vieux, jeune, est-ce qu'il va continuer à me servir, est-ce qu'il va m'abandonner, est-ce que le fait de savoir ça va changer la manière dont toi tu vas me suivre ? Jésus, par cette réponse-là, nous fait comprendre que ce qui doit déterminer notre comportement, nos actions, ce n'est pas l'échec, le succès des autres, mais c'est sa volonté à lui pour nos vies. Parce que lorsqu'on va se placer devant lui, à la fin de notre vie, on ne va pas devoir rendre des comptes sur la vie du voisin, de la voisine, non, non, ça va être juste sur notre vie. Et de toute façon, la comparaison est futile parce que Dieu nous a tous créés chacun de manière unique. Ce qui fait que ces critères de réussite pour nos vies sont uniques. On n'est pas dans la même catégorie. Tu peux pas, c'est comme comparer c'est comme si un coureur de 100 mètres compare son temps avec un conducteur de Formule 1. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes distances, c'est hors catégorie. Mais à chaque fois qu'on se compare avec les gens qui sont à notre droite, à notre gauche, ça a aucun sens parce que notre appel n'est pas le même. Et lorsqu'on se compare, généralement, on s'éloigne de Dieu parce qu'il arrive toujours deux choses. Soit on se compare à des personnes qui sont rendues plus loin que nous et on est rempli de honte, de culpabilité, de l'impression que oh, je ne sers à rien, je ne vais jamais rien accomplir dans ma vie. Soit on se compare à des personnes qui sont rendues moins loin que nous et là, on est gonflé d'orgueil. On dit « Ah, je ne suis pas si pire que ça finalement. » Mais dans les deux cas, on fait fausse route parce que le plan, l'appel, la destinée de ton voisin n'est pas meilleure, n'est pas moins bien. Elle est juste différente, elle est juste unique. Et tant et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas ça, on sera incapable de se réjouir des bénédictions et du succès des autres. Est-ce qu'on peut entendre « Amen » ce matin, Nouvelle Vie ? Incapable. Il faut qu'on réalise ce matin, Nouvelle Vie, que ce que les autres ont ne t'enlève rien. Ce n'est pas parce que les autres sont bénis que toi, tu viens de perdre quelque chose. Soyons heureux pour la réussite des autres. Ce qui m'amène à mon deuxième piège, qui bien souvent nous mène à la frustration, c'est les mauvaises attentes. S'attendre à ce que Dieu fasse des choses qu'il n'a jamais promis. Encore une fois, les ouvriers sont bien contents de recevoir une pièce d'argent. Mais dès qu'ils voient que ceux qui ont travaillé moins qu'eux ont reçu autant que eux ce qui leur était promis, là, ils commencent à triper. Là, ils commencent à se faire des films. Ils disent « Oh, t'as vu ? Lui, il a travaillé juste une heure, deux heures. Il a été payé une pièce d'argent. » Oui, il nous a dit que nous, on allait payer une pièce d'argent, mais on a travaillé beaucoup plus. Ça fait longtemps qu'on est là. C'est sûr qu'il va nous donner plus. Tu penses qu'il va nous donner combien ? Ah, moi, je pense 2 pièces. 3 pièces. Quoi ? Non, il faisait chaud aujourd'hui, nous on est là depuis 9 heures. Moi, je pense que ça peut aller jusqu'à 5, 6 pièces d'argent. On va voir ce qu'il va nous donner. Puis là, ils se retrouvent frustrés. Parce qu'ils sont payés juste une pièce d'argent, mais comme ils l'avaient dit explicitement. Pourquoi ? Parce que leurs attentes étaient basées sur leur logique humaine à eux, au lieu d'être basées sur la parole de l'employeur. Et bien souvent, dans nos vies, lorsqu'on est frustré contre Dieu, frustré contre la vie, c'est que nos attentes sont basées sur nos propres désirs, sur la culture, sur le succès du voisin, et non sur la parole de Dieu, et non sur les promesses de Dieu. Vous savez, la foi, ce n'est pas croire que tout ce qu'on désire va arriver, que tout ce qu'on veut, ça va se produire. Ça, à un certain niveau, ça peut même être appelé de la folie, de dire tout ce que je veux, ça va arriver. Non. Mais ce qui différencie la foi de la folie, c'est que la foi, contrairement à la folie, elle est basée sur les promesses de Dieu. Sur les promesses de Dieu qui sont marquées dans sa parole, quelque chose qui est solide parce que Dieu, tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Et de la même manière que dans cette parabole-là, l'employeur avait promis, avait dit que le salaire c'était une pièce d'argent, de la même manière, Dieu nous a prévenu dans sa parole. Il nous a prévenu que non seulement on n'allait pas, que vivre pour lui, ça n'allait pas nous exempter de souffrance, en fait, il nous a même prévenu que vivre pour Christ, ça va être difficile. Que vivre, que me suivre, vous allez passer par des moments d'épreuves et de difficultés. Il dira ceci à ses disciples juste avant de monter au Père, en Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. L'apôtre Pierre, quelques années plus tard, enverra même une lettre à l'église, à une église qui marche sous la persécution, mais qui marche dans la fidélité, mais qui passe par des moments difficiles. Il leur dit même, ne soyez pas surpris que vous viviez des épreuves comme s'il s'agissait d'une chose anormale. Jésus nous avait prévenu. Je sais que c'est difficile en ce moment, c'est tough à vivre, mais Jésus nous avait prévenu, continuez à lui faire confiance. Mais bien qu'on sache ça, si on est honnête et transparent pendant un instant, notre premier réflexe lorsqu'on fait face à la souffrance, à les difficultés, et moi le premier, c'est de dire, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu me fais ça ? Tu vois pas ? On pense que notre obéissance doit nous exempter de souffrance. Un peu comme ce que j'ai vécu lors d'un de mes premiers jobs étudiants. Moi, j'ai eu plusieurs jobs étudiants dans ma vie. Et un des premiers, ça a été d'être vendeur de gazon. Okay, il y en a qui se demandent comment je suis arrivé dans un travail comme ça. Moi-même, je ne sais pas, je ne connais rien en gazon, tout ça. Mais ils nous ont fait des formations et j'étais capable de vendre, de donner quelques informations. Et ce travail-là, je l'aimais bien. Pourquoi ? Parce que je touchais des commissions. Et à l'époque, moi, j'avais 18 ans, 18, 19 ans. J'avais un appartement, mes études à payer. Puis le moindre sou, là, était vraiment précieux pour moi. Et c'est ça. Donc, c'était du porte-à-porte. Puis un jour, à un moment donné, on faisait du porte-à-porte. Et la police vient nous voir. La police vient nous voir, puis ils nous disent, vous savez, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites en ce moment. Ce n'est pas la première fois qu'on avertit votre compagnie. Vous n'avez pas les permis pour faire du porte-à-porte et faire de la sollicitation dans ce quartier-là et même dans cette ville-là. Je vais vous demander d'arrêter. Donc là, on arrête, on retourne à la base, on retourne voir notre boss, puis on lui pose la question, on lui dit, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Puis là, elle nous sort une réponse, oui, mais en fait, soit oui, on n'a pas le droit, mais ils nous menacent, ils disent qu'ils vont nous arrêter, qu'ils vont nous mettre des amendes, mais ils ne font jamais rien. Arrêtez pour aujourd'hui, on retourne demain, même jour, même heure, tranquillement. Donc là, moi, jeune chrétien, j'étais face à un dilemme. J'ai jamais touché autant d'argent de ma vie, puis j'en ai réellement besoin en ce moment. Et d'un côté, bah, je sais que c'est illégal et ce n'est pas marcher dans l'intégrité, ce n'est pas honorer Dieu de continuer ce travail-là. Donc ça me travaille, puis je sens que le Saint-Esprit me donne une conviction. Puis je décide d'obéir à Dieu, je décide d'aller de l'appeler, puis de dire, tu sais quoi, je vais pas rentrer aujourd'hui, je démissionne. Je démissionne. Puis là, dans ma tête, j'étais fier de moi. Je me dis, oh, Dieu m'a mis une conviction là, puis j'ai obéi à Dieu. Dieu, il a vu ça. Et là, je commence à me faire des idées. Je me dis, ah, Dieu... Ah Thomas, t'es un homme de Dieu quand même. T'as dit non à l'argent pour obéir à Dieu. Dieu, il a vu ça. Puis là, c'est sûr que là, tu vas avoir un travail encore meilleur là. Puis là, je commence à me faire des films. Je me voyais déjà raconter mon témoignage à l'église, devant des stades en délire. Alors que j'ai obéi à Dieu, j'ai choisi l'intégrité et pas l'argent. Dieu m'a donné un travail avec le double du salaire. Obéissez à Dieu. Et là, tout le monde crierait « Alléluia », on irait dans la louange. Will serait là avec la guitare, ça serait incroyable. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La réalité, c'est qu'après cette job-là, j'ai mis plus d'un mois et demi à trouver un travail. Et le travail que j'ai trouvé après, c'était le pire travail de toute ma vie. De la sollicitation au téléphone, sans commission, avec une équipe grincheuse. Mais vous savez quoi? Malgré ma jeunesse, malgré mon immaturité de l'époque, je n'ai jamais regretté cette décision-là. J'ai jamais regretté cette décision-là parce que ce jour-là, j'ai découvert un secret. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'il n'y a rien, absolument rien qui remplace la paix que Dieu te donne lorsque tu marches dans ses voies et lorsque tu choisis d'obéir. Il n'y a rien qui remplace ça. Absolument rien. Ni l'argent, ni les succès, ni les promotions, il n'y a rien, ni même l'absence d'épreuves. Et ça tombe bien parce que la parole de Dieu nous dit que le résultat de notre obéissance, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais c'est la présence de Dieu avec nous, c'est la paix de Dieu avec nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. En Philippiens, il dit ceci. « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde, c'est la paix de Dieu, la présence de Dieu avec nous. Et je vais être extrêmement prudent ce matin alors que je parle de souffrance parce que je sais qu'il y en a ici, là, vous souffrez vraiment en ce moment. Que ce n'est pas juste une petite perte de job étudiante, là. C'est des vraies souffrances. C'est des vraies difficultés. C'est des vraies épreuves. Mais j'aimerais vous dire que la personne qui parle de ça, là, qui dit ça, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lui, il a connu la souffrance. Lorsqu'il parle de ça, que obéissez, puis la paix de Dieu et la présence de Dieu sera avec vous, là, il est en prison. Il est en prison quand il dit ça. Et cette épître-là est appelée l'épître de la joie. L'épître de la joie parce qu'il n'y a aucun livre où il y a autant le mot joie de manière concentrée que celui-là. Pourtant, il est en prison dans des conditions atroces. Pourquoi ? Pour avoir prêché l'évangile. Malade, puis dit, moi je suis rempli de joie. Pourquoi ? Parce que la paix de Dieu est avec moi. Il faut réaliser que Dieu nous a prévenus. Mais quelle attitude on a dans notre épreuve? Vous savez, un de mes autres jobs étudiants que j'ai eu, c'était de vendre des assurances. Je vendais des assurances pour toutes les personnes qui partaient à un chalet, qui partaient faire du camping, faire du skidoo, tout ça, et qui se retrouvaient à plusieurs heures de l'hôpital le plus proche. Et ces personnes-là, s'il leur arrivait un accident, un AVC ou quelque chose, ils étaient finis. Ils étaient finis parce que ça aurait pris plusieurs heures pour aller à l'hôpital, puis ça aurait été trop long. Donc nous, ce qu'on leur offrait, c'était que si t'arrives un accident, on va venir en hélicoptère te chercher et t'emmener à l'hôpital le plus approprié à ta situation. Ce qui fait qu'on ne promettait jamais qu'alors que vous allez prendre notre assurance, il va vous arriver aucun problème. En fait, la raison pour laquelle ils prenaient cette assurance-là, c'est parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ils allaient avoir besoin de nous. Ce qui fait que là, encore une fois, lorsqu'il arrivait un accident, qu'il arrivait un accident, une crise cardiaque, il n'y a jamais personne qui nous appelait en disant hey, je comprends pas, là, ça fait des années que je paye l'assurance, puis là, ma femme, là, elle a fait une crise cardiaque, c'est de l'escroquerie, c'est rien, non. À chaque fois, ils nous appelaient en disant, on savait qu'il y avait des chances que ça allait arriver. Vous nous avez prévenu du besoin, c'est le temps de venir nous chercher. C'est le temps de venir nous chercher. Quelle est ton attitude dans ton épreuve ce matin? Est-ce que tu as le poing levé contre Dieu? Ou est-ce que tu saisis la main qui te tend pour te sortir de là? Saisis la main. Tu peux crier à lui ce matin. Tu peux crier à lui ce matin parce que j'aimerais te dire qu'il n'y a personne qui te comprend mieux que lui. Personne qui te comprend mieux que lui. Parce que s'il y a une personne qui a encore plus souffert que l'apôtre Paul, c'est Jésus lui-même. Tout ce que tu traverses, il l'a déjà traversé avant toi. Tu vis de la solitude en ce moment. Tu as l'impression que tu es seul. Jésus l'a connu, la solitude. Tu souffres dans ton corps, tu es malade en ce moment, tu es frappé par la maladie. Jésus a souffert dans son corps. En ce moment, tu as l'impression que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur par ton entourage, par ton boss, par ton travail. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il s'est fait clouer sur une croix, totalement nu, on lui a craché au visage. Jésus sait ce que c'est de ne pas se faire apprécier à sa juste valeur. Tu as été trahi par un proche, par un membre de ta famille. Jésus sait ce que c'est de se faire renier, de se faire trahir. Tout ce que tu traverses, Jésus l'a traversé. Quelqu'un a dit ceci, quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de créer l'homme tel qu'il est, limité, souffrant et sujet à la mort, il a eu l'honnêteté et le courage de prendre ses propres remèdes. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'exigeait de lui-même. Il est lui-même passé par toute l'expérience humaine, depuis les banals conflits familiaux et les stress du dur labeur et du manque d'argent jusqu'aux pires douleurs et humiliations, la défaite, le désespoir et la mort. Quand il était un homme, il a joué le rôle d'un homme. Il est né pauvre et il est mort en disgrâce, pensant que ça en valait la peine. Face à nos souffrances, Dieu ne nous a pas juste dit des simples paroles ou théories sur la souffrance, il s'est donné lui-même. Face à tes souffrances ce matin, il ne se bouge pas les oreilles. Au contraire, il est venu souffrir avec nous, afin qu'un jour, nous ne souffrions plus avec lui. Ce matin, peu importe ce que tu vis, tu peux venir à lui et lui faire confiance. Au début du message, je vous ai parlé d'un homme qui s'appelle Asaf. Asaf, conducteur de louanges, qui passait par des moments difficiles et commençait à exprimer sa colère à Dieu. Il se dit, est-ce que c'est en vain que je fais tout ça? Tu vois pas toute la souffrance, je t'obéis, puis je souffre. Ce qui est intéressant, c'est que alors qu'il vient à Dieu avec authenticité, qu'il continue à parler à Dieu et qu'il se laisse habiter par la présence de Dieu, on voit son discours changer. On voit son discours changer et voici comment il termine son psaume. « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Il a réalisé de nouveau que ce qu'il y avait de meilleur que des bénédictions que Dieu pouvait lui donner, c'était le Dieu des bénédictions lui-même. Que ce qu'il y avait de meilleur que la main de Dieu, c'était le cœur de Dieu lui-même. C'était sa présence dans nos vies. Et lorsque tu comprends que ta plus grande bénédiction, c'est pas ce que Dieu peut te donner, mais juste le fait d'être avec lui, les motivations de ton obéissance changent totalement. Parce que tu n'obéis plus, tu ne sers plus pour obtenir. Parce que tu réalises que tu as déjà tout. Tu réalises que tu as toujours gagné. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux dire, comme 1 Jean 5:3, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Au contraire, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Moi, j'ai un ami. Vous savez, il y a Gary Chapman qui a sorti un livre il y a quelques années qui a révolutionné le monde de l'amour, qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Disant que tu peux donner de l'amour de toutes sortes de façons, avec les services, avec les paroles. Puis moi, j'ai un ami là, son langage d'amour, c'est les cadeaux. Lui, il aime tellement offrir des cadeaux qu'il a du mal à se retenir jusqu'à la date pour offrir ce cadeau-là. Et lui, sa récompense là, c'est pas juste une faveur qu'on va lui faire suite à la réception de son cadeau. Non. Sa récompense, lui, là, c'est juste de voir notre sourire sur le visage lorsqu'on ouvre le cadeau, lorsqu'on déballe le cadeau. Lui, il est prêt à faire des soldes, à faire des longues files le 23, 22 décembre dans la neige. C'est pas grave, moi, je suis prêt à endurer tout ça parce que moi, je veux tellement avoir leur sourire sur le visage que je suis prêt à endurer tout ça. Dieu nous appelle à avoir un type d'obéissance ou de dire, hey, Seigneur, moi, je marche pour toi, mais ma récompense, là, c'est son sourire sur ma vie. Ta récompense, c'est mon sourire. Tu as tout donné pour moi. Laisse-moi tout donner pour toi. Laisse-moi tout donner pour toi. Tu m'as donné 1 milliard. Laisse-moi te donner 50 sous. Je vis pour toi. J'aimerais terminer ce message avec une citation qui capture totalement le message que je vous communique ce matin. Citation de pasteur Timothy Keller qui nous dit ceci. Nous commençons en général notre cheminement vers Dieu en pensant « Que dois-je faire pour obtenir ceci ou cela de lui ?» Mais il arrive pourtant un moment où nous devons nous mettre à penser « Que dois-je faire pour l'obtenir lui ?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé de venir dans la présence de Dieu et de dire « Seigneur, je suis là pour rien te demander, moi je suis juste là pour toi. Je veux juste te dire merci. » Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Oui, ma vie, elle n'est pas parfaite, mais je reconnais que ta main est sur ma vie. Je reconnais que je suis vivant pour l'éternité. Je te remercie pour la croix, je te remercie pour ton pardon, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, je suis juste bien là. Je ne veux rien te demander, je suis juste bien avec toi. Je veux juste te serrer dans mes bras et te dire merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour la relation que tu m'offres. Toi, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, tu me permets à moi, pécheur, d'être en communion avec toi. Seigneur, j'ai rien besoin de plus. J'ai rien besoin de plus. Je veux juste ton cœur. Je veux juste être dans ta présence. Alléluia. Je vous invite à pencher la tête. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu. Seigneur Dieu, tu connais les difficultés, tu connais les épreuves, tu connais les craintes, les angoisses éternelles. Viens te révéler à eux d'une manière nouvelle, Seigneur Dieu. Viens leur rappeler la grandeur de ton amour, la grandeur de ta bonté, la grandeur de tes promesses. Viens leur rappeler que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses et que tu n'as pas dit ton dernier mot dans leur situation. Viens redonner espoir à celui qui est découragé. Viens relever celui qui est abattu. Viens donner foi et confiance en l'avenir à celui qui est rempli d'anxiété. Viens donner ta force à celui qui est fatigué. Éternel, on a besoin de toi, Seigneur Dieu. Mais avant tout, on veut te dire merci. Merci pour la croix, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. On veut venir et terminer cette célébration en élevant ton nom, en chantant ta grandeur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous a tout donné à la croix? Je vais vous inviter à vous lever. Je vous invite à vous lever. Et on va prendre ce chant qui dit « Rien au monde ». Rien au monde ne peut me combler. Pardonne-moi parce que je suis venu dans ta présence comme une habitude. Je veux ton cœur. Je ne mérite rien, mais je mérite rien de ta part. Mais moi, la seule chose que je veux, c'est pas ta main, c'est pas ta. Je veux ton cœur. Je veux être avec toi. Je vous invite à fermer les yeux si vous êtes à l'aise de le faire. Et de commencer à prier. De commencer à parler à votre Dieu. De commencer à dire à Dieu, Seigneur, merci. Je me repens si j'ai pris tes bénédictions pour acquis pendant ces derniers temps. Je veux te dire merci pour la croix, merci pour ton amour, merci pour tes promesses, merci pour la paix que tu me donnes malgré les circonstances. Je ne veux pas regarder à ce que je n'ai pas, je veux regarder à ce que j'ai ce matin. Et ce que j'ai, c'est toi. Et si j'ai toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alléluia.